VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Libye, intensification des combats entre les forces du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, qui sont en pleine progression sur le terrain, et celle du GNA, le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli, qui défend la capitale. L'aéroport international de Tripoli, inutilisé depuis 2014, est le théâtre d'affrontements à une trentaine de kilomètres de la ville. Et des accrochages sont également signalés dans le secteur d'Aïn Zara, à une dizaine de kilomètres seulement au sud-est de Tripoli. Le conflit s'aggrave à quelques heures de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU prévue ce mercredi. Les Nations Unies ont annoncé hier le report sine die de la conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos. Irénée Armanongbo.
L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, expliquera devant le Conseil sa décision de reporter une conférence nationale qui était prévue du 14 au 16 avril à Ghadames. En préparation depuis plusieurs mois, elle devait permettre de dresser une feuille de route à même de sortir le pays du chaos. Depuis jeudi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, mène l'assaut vers Tripoli au prix de violents combats qui ont déjà fait des dizaines de morts et des milliers de déplacés. Il doit cependant compter dans sa progression avec le gouvernement d'Union nationale qui a promis dimanche une contre-offensive sans précédent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné l'escalade de la violence autour de Tripoli et appelé à un arrêt immédiat des combats. Il a exhorté toutes les parties à engager immédiatement le dialogue afin de trouver une solution politique. Les organisations internationales craignent que les civils ne fassent une nouvelle fois les frais de ces affrontements interlibyens. Quelques 3400 personnes ont déjà été déplacés par les combats, selon l'ONU.
Contestation en Algérie voisine au lendemain de sa nomination et malgré sa promesse d'un scrutin présidentiel transparent d'ici 3 mois, le chef de l'État algérien par intérim, Abdelkader Ben Salah, fait face aujourd'hui à de nouvelles manifestations et un appel à une grève nationale. À Alger, plusieurs milliers de manifestants gardés par un important dispositif policier sont déjà rassemblés sur la place du 1er mai et près de la Grande Poste, les deux poumons de la contestation qui ébranlent le pays depuis cette semaine. Les Algériens ont clairement affiché leur refus de voir M. Ben Salah, ancien président du Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement, a assumé l'intérim du pouvoir dans le pays. C'est un fidèle de l'ex-chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika. Toujours concernant l'Afrique du Nord, le président Donald Trump a reçu son homologue égyptien hier à la Maison-Blanche, l'occasion pour le chef de l'exécutif américain de louer le très bon travail du président Abdel Fattah al-Sissi en Égypte. Les détails avec Morgan Guiriec.
« Je pense qu'il fait un très bon travail », a lancé M. Trump, interrogé sur les efforts d'Abdel Fattah al-Sissi pour se maintenir au pouvoir après la fin de son deuxième mandat en 2022. L'ex-chef de l'armée égyptienne a destitué son prédécesseur islamiste, Mohamed Morsi, en 2013, avant d'être élu à la présidence un an plus tard. « Les relations entre l'Égypte et les États-Unis n'ont jamais été aussi bonnes », a assuré M. Trump, sans mentionner à aucun moment la question des droits de l'homme. C'est la deuxième fois que l'homme fort du Caire était reçu par M. Trump à la Maison Blanche, il n'avait jamais été invité par Barack Obama. Plusieurs amendements à la constitution égyptienne de 2014 doivent être prochainement soumis à référendum et cette réforme permettrait de renforcer les pouvoirs de l'exécutif et de l'armée et au chef de l'État de se maintenir à la tête du pays au-delà de 2022, année de la fin de son deuxième mandat.
On reste à Washington, en visite dans la capitale américaine, le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, s'est montré optimiste ce mardi quant à la réussite de l'accord de paix signé en février avec des groupes armés. Le point avec Jean-Roger Bion.
Monsieur Touadéra a souligné que cet accord comporte des mesures sur des sujets cruciaux comme le partage du pouvoir. Il a débouché sur la formation d'un gouvernement incluant plusieurs membres des groupes armés. Ce nouveau gouvernement inclusif accorde davantage de portefeuilles aux signataires de l'accord de paix conclu à Khartoum au Soudan début février. C'est le 8e signé depuis le début de la crise marquée par le renversement en mars 2013 du président François Bozizé par la CELECA, rébellion à majorité musulmane. Le président Touadéra a affiché son optimisme, indiquant que toutes les parties prenantes ont eu le temps nécessaire pour discuter tous les points qui ont fait l'objet de l'accord. Nous pensons que ça peut être le dernier accord si nous tous, nous nous engageons fermement à la mise en œuvre, a-t-il déclaré en marge d'une rencontre à l'Institut de la paix des États-Unis. Faustin Archange Touadéra doit rencontrer à Washington le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et espère encourager les investissements américains dans son pays. Il a rassuré sur l'influence grandissante de Moscou dans le pays en défendant son implication. Il y a de la place pour tout le monde en Centrafrique, a-t-il précisé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Notre dossier maintenant, République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo FCC regrette ce qu'il appelle des propos militants contre le chef de l'État, à savoir des critiques à l'encontre de l'ex-président Joseph Kabila. Le nouveau chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a demandé jeudi dernier à Washington l'aide des États-Unis pour sortir son pays de la crise dans laquelle la RDC se débat depuis des décennies. Et il a mis en cause le pouvoir précédent à Kinshasa. Pour une analyse, Eki Abadou a joué dans la capitale congolaise William Kaengai, directeur de publication de la revue congolaise Géopolis.
Moi, je suis optimiste parce que, au-delà des questions de réglage des personnalités, des réglages d'humeur, des réglages de tempérament, il y a un lien plus fort qui dépasse les calculs individuels, c'est l'intérêt général du pays, c'est l'intérêt supérieur de la nation, comme nous disons ici. Il faut jamais oublier que dans ce grand pays, il n'y a vraiment aucune force qui peut diriger totalement seule et avoir une majorité absolue.
Quand vous dites besoin de s'associer à d'autres, quand les partisans de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, ont qualifié d'attaque gratuite contre leur camp les déclarations faites aux États-Unis par le nouveau président, M. Tshisekedi, qu'en pensez-vous? Est-ce des attaques gratuites, comme ils le disent?
Moi, je pense que nul ne peut ignorer que notre pays a quand même traversé des périodes d'autoritarisme. Il ne faut pas oublier cela. Et ceci n'est pas le fait simplement d'un camp. Nous étions dans un système qui a produit ses propres contradictions et que l'on demande à ce que le président veuille changer ce système, c'est tout à fait normal. Il veut le déboulonner. Qui va vouloir qu'un système ne soit pas démocratique? Nous voulons tous de la démocratie. Que ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent se sentir figés, pas par le propos du président, mais par les insinuations. C'est toujours l'arrière-coup. Ce qui reste derrière, ce que l'on sous-entend. Le discours est beaucoup plus entendu, mais le sous-entendu est plus profond que le discours.
Alors, vous voulez que le pays aille de l'avant? Est-ce que vous pensez que l'aide américaine peut le permettre? C'est une aide appropriée, selon vous?
Absolument. Ça dit que, d'abord, l'aide morale. Les États-Unis ont quand même une expérience de la démocratie. Chez nous, dans ce pays, nous avons développé quand même une certaine pensée souverainiste et très forte. Alors, il ne faudrait pas que l'aide américaine puisse être perçue comme une instrumentalisation de notre démocratie. C'est ça qui est aussi la deuxième crainte. Oui, aider le Congo, c'est une chose, mais l'aider en respectant son identité, en respectant sa marche vers la démocratie et en prenant en compte ses erreurs nécessaires à la maturation. L'Amérique peut aider en tant que pays regroupant beaucoup d'investisseurs qui peuvent venir ici chez nous appuyer notre économie, mais ça devra se faire en respectant la dignité d'un peuple qui faut le dire, et il ne lui reste que ça à protéger. Moi, je pense que la qualité de leadership peut rapidement résorber les différences des chiffres. Si l'action qui est menée par le président est bien entendu dans une coalition avec le FCC et faite pour la population, nous sommes dans un pays où les fractures ne sont pas très grandes. La seule fracture qu'il y a, c'est que nous avons une minorité de ceux qui ont un peu de moyens et la grande majorité des pauvres. Le président de la République et cette coalition doivent trouver. Il y a une obligation. Il faut lire ça comme un appel du peuple. Le peuple a choisi un président, le peuple a choisi une majorité, et le peuple oblige cette majorité et ce président de trouver les voies et moyens pour lui consacrer un avenir meilleur. C'est un challenge qui est donné aux hommes politiques. Si malheureusement ils se recroquent dans leur propre égo, eh bien le peuple qui est le souverain va vouloir prendre une sanction. C'est une obligation morale qu'il y a aujourd'hui, que personne d'entre vous ne peut à lui-même conserver le mantel essentiel du pouvoir. Vous le partagez ensemble et vous choisissez le bon chemin. C'est ça le message que moi j'ai dit, le choix qui a été fait, qui est relativement assez paradoxal pour une démocratie qui est naissante. Mais nous sommes un pays de paradoxes et celui-là, il est ingénieux parce qu'il pousse tout le monde à travailler ensemble.
William Kainga, directeur de publication de la revue Congolais Géopolis à Kinshasa en RDC. Et pour terminer les élections en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est sur la voie d'un cinquième mandat de chef de gouvernement après dépouillement de la presque totalité des votes aux législatives de mardi qui le montre nettement mieux placé pour conserver son poste. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.